Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue. Merci d'être à notre écoute. La prière pour le repos de l'âme de sa sainteté. Le pape François se poursuit au Vatican et à Rome. Les hommages continuent. Dans la matinée, le corps du pape a quitté la chapelle de la maison Sainte-Marthe et est désormais exposé dans la basilique Saint-Pierre. Plus de détails dans quelques instants.
Radio Vatican, France et Afrique, Fabrice Baguendéquéré.
Troisième jour après la mort du pape, la translation de son cercueil à Saint-Pierre a été effectuée dans la matinée de mercredi. C'est à 9h que le cercueil a été transporté en procession de la maison Sainte-Marthe à la basilique parmi les chants et les acclamations des fidèles présents sur la place Saint-Pierre. Olivier Bonnel pour nous faire une description de l'événement.
Magna cum anima commozione.
C'est avec une grande émotion que nous accompagnons la dépouille de notre pape François dans la basilique vaticane. Les mots en latin du Camerlingue, le cardinal Farrell ouvre cette cérémonie solennelle. Puis lentement, le cercueil du pape François est porté en procession depuis la chapelle de la maison Sainte-Marthe, alors que le psaume 22 est psalmodié. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours, chante le psaume. Le cercueil du pape est porté à l'épaule par 14 porteurs de la chaire pontificale, encadrés de 8 hallebardiers de la garde suisse. Devant lui, le Camerlingue, précédé par les cardinaux, les patriarches, les évêques de la curie, mais aussi par les employés laïcs du Vatican. 7 psaumes sont chantés par le chœur de la chapelle Sixtine durant cette translation. La dépouille de François arrive lentement sur la place Saint-Pierre par l'arc des cloches, une place où des milliers de fidèles sont en prière. Le glas de Saint-Pierre sonne et des applaudissements se font entendre alors que la dépouille pontificale est portée lentement dans la basilique et qu'est entonnée la litanie des saints. Le corps de François dans ce simple cercueil de bois et de zinc est doucement déposé devant le baldaquin de la basilique, désormais offert à la vénération des fidèles.
La dépouille de l'évêque de Rome est donc exposée aux fidèles jusque vendredi à 20h. Alors interviendra le rite de la fermeture du cercueil. Ce sont des milliers et des milliers de pèlerins qui sont passés s'incliner devant les pasteurs. Le pape François qui a été un pape proche des gens, proche de la foule jusqu'au dernier moment. Françoise Niamien.
Ils étaient des milliers de fidèles et touristes à prendre d'assaut la place Saint-Pierre pour pouvoir accéder à la basilique où est exposée la dépouille du pape François. Pour cette religieuse malgache qui a pu y accéder après de longues heures d'attente, s'incliner devant la dépouille du Saint-Père est l'occasion pour elle de lui dire merci.
Nous venons de dire au revoir et dire merci au pape François, que vraiment ça m'a beaucoup touchée. Et son exemple et son enseignement, toute sa vie a été vraiment un bon berger. Je vois un papa, je vois un bon pasteur et je vois un bon exemple et je vois un saint qui est en train de, un saint en devenir. Toute sa vie a été à cette image de Dieu et cet amour de Dieu et cette fraternité, surtout son soin de plus pauvre et plus et faible. J'ai dit sincèrement merci à lui pour son vraiment un bon exemple pour nous.
Martin, un adolescent français, était encore dans une des longues files d'attente. En vacances à Rome avec ses parents, il espère lui aussi saluer le Saint-Père qui, selon lui, a été un grand pape.
On est venu en vacances à Rome et on essaye d'accéder au Vatican pour voir le corps du pape François. Mais il y a trop de monde et du coup on n'arrive pas à y accéder. On est impatient, on a envie de voir mais on ne peut pas. C'est une personne bien j'aimerais bien lui dire qu'il repose en paix et que c'était un très grand pape.
La dépouille du pape François est exposée à la vénération en la basilique Saint-Pierre jusqu'au vendredi prochain.
Entre-temps, les congrégations générales se poursuivent. C'est à 17h, heure de Rome, que la deuxième congrégation a eu lieu. Les cardinaux vivant dans des pays lointains arrivent progressivement, leur nombre d'avantages significatifs. Dis-nous, Olivier, en quoi consistent ces congrégations?
Selon la constitution Universi Dominici Gregis, adoptée par Jean-Paul II en 1996, puis complétée par Benoît XVI et François, et qui fixe les règles en période de vacances du siège apostolique, il y a deux types de congrégations, les congrégations générales et les congrégations particulières. Les premières rassemblent tous les cardinaux présents, jusqu'au début de l'élection du pape. Les secondes traitent d'affaires mineures. Elles sont un petit groupe composé du cardinal Kamerling et de trois cardinaux électeurs tirés au sort parmi les trois ordres du collège, cardinaux évêques, cardinaux prêtres et cardinaux diacres. Lors des premières congrégations générales, tous les cardinaux présents doivent prêter serment d'observer les prescriptions de la constitution apostolique et de garder le secret. La première congrégation générale est d'ordinaire consacrée au règlement des questions urgentes, comme la date et les dispositions des funérailles du souverain pontife ou l'approbation des dépenses nécessaires pour le Saint-Siège jusqu'à l'élection du futur pontife. Des questions plus prosaïques, mais néanmoins importantes, sont également discutées, comme la répartition des locaux à la résidence Sainte-Marthe pour l'hébergement des cardinaux. La date du conclave n'est décidée en congrégation générale que lorsque tous les cardinaux électeurs sont présents à Rome. Ces congrégations restent essentielles pour les cardinaux car elles permettent de mieux se connaître pour des pasteurs qui viennent des cinq continents et incarnent l'universalité de l'Église, un temps de rencontre et de maturation indispensable à l'élection du prochain chef de l'Église catholique.
Et la prière du chapelet en suffrage pour le pape se poursuit concomitamment sur la place Saint-Pierre et sur les parvis de la basilique Sainte-Marie-Majeure. Mardi soir, c'était au tour du cardinal Ré, le doyen du collège cardinaliste, de la présider sur la place Saint-Pierre. Ré qui a rendu grâce à Dieu pour les dons accordés à l'Église par le ministère apostolique du pape François. Et au défunt pontife lui-même, témoin du Seigneur et de sa tendresse pour les petits et les pauvres, sa miséricorde pour les pécheurs et sa bienveillance envers tous. À Sainte-Marie-Majeure, le chapelet a été présidé par le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin. La basilique Sainte-Marie-Majeure que, comme nous le savons, le pape a choisi comme lieu de son repos éternel. La douleur est grande, la perte est grande pour les fidèles. Et même le non-croyant, le pape François qui a représenté pendant tout son pontificat une grande et peut-être la référence pour le combat contre les violences de toute forme qui caractérisent notre temps. C'est aussi l'espérance qu'il a rencontré celui au nom duquel il a mené ce combat. Le pape François a été cette lumière pour notre temps. C'est ainsi que le pleurent ces personnes à la rencontre desquelles Augustine Asta a été hier sur la place Saint-Pierre après les chapelets.
J'ai tenu à venir prier avec les chrétiens, les fidèles qui sont ici, parce que le pape, chaque jour, il nous demande de prier pour lui. Alors ça devient comme pour moi un dernier hommage pour lui.
Je suis très désolée, nous avons perdu un ami, nous avons perdu un guide, nous avons perdu la lumière.
J'étais étonnée, comme je pense tout le monde l'était. Et en même temps, je sentais une gratitude vers ce que François avait fait dans son magistère. L'attention aux pauvres, aux derniers, c'était un pape loin de la formalité qui a su communiquer avec simplicité. Il a fait passer des messages très importants pour la paix.
Dans cette grande joie de la résurrection, le pape a tout donné. Il nous a bénis. Il a béni Rome, il a béni le monde. Et après, comme s'il avait clôturé sa mission, il est retourné auprès du Père. On est triste, quel bonheur pour lui de rencontrer son Seigneur qui l'a servi toute sa vie.
Et nous continuons de recueillir de nombreux messages et témoignages sur le pape depuis les continents. Commençons par cet entretien que notre correspondant au Tchad a eu avec l'archevêque de N'Djamena, Monseigneur Edmo Djitangar. Monseigneur Djitangar qui affirme qu'en 12 ans de son pontificat, le pape François a fait beaucoup pour l'Église universelle.
Je crois que le pape François en 12 ans a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je crois que nous devons garder présent sa mémoire parce que beaucoup de choses qu'il a commencées n'ont pas été achevées. Je crois que c'est à nous de continuer dans l'esprit, surtout l'esprit synodal, qui permet que chaque chrétien se sente vraiment engagé à part entière dans la gestion de la vie et de l'avenir de son Église.
Le pape François a fait de vous archevêque de N'Djamena, fait de Monseigneur Miguel, évêque d'Issar, Monseigneur Wengi Bani, évêque de Doba, Monseigneur Nicolas, évêque de Lai, Monseigneur Dominique Tinoji, évêque de Pala, Monseigneur Philippe Abou, évêque de Mongo, et Mgr Samuel Mbaïra Bétibinga, évêque de Kumbra. Pourquoi cette particularité pour l'Église catholique et au Tchad?
Ben, c'était aussi l'âge de mutation normale d'une communauté qui passe de l'état de mission à une église locale. Donc, c'est pour cela que le temps est donné que nous devenons une église à part entière comme les autres et non plus un territoire de mission où les décisions se prennent ailleurs et exécutées ici. Donc, en nommant à la tête de chaque diocèse un pasteur et d'autant plus un pasteur qui connaît bien l'Église pour y avoir été longtemps missionnaire ou qui y est né. Et c'est ce qui fait que notre Église prend vraiment sa stature d'Église véritable parce que nous avons maintenant tous les moyens, toutes les ressources de salut que le Christ nous a donné. Et c'est à ce titre que le pape nous reçoit en visite ad limina. C'est l'Église du Tchad qu'il reçoit. Ce n'est plus les évêques missionnaires au Tchad, mais c'est vraiment l'Église catholique du Tchad et nous lui en sommes très reconnaissants.
Quels seraient peut-être les mots adressés aux fidèles chrétiens de votre archidiocèse qui sont aussi attristés en ces moments et les orientations?
La tristesse est humaine, mais nous sommes dans une année d'espérance. Nous savons le jubilé de l'espérance. Nous devons maintenir vive cette espérance en nous, quelles que soient les circonstances que nous traversons. Donc la mort du pape créera un vide peut-être de moins d'un mois, mais nous aurons un autre pape rapidement et c'est pour cela que nous devons nous mettre en prière pour que l'Esprit Saint et les cardinaux choisissent, nous indiquent vraiment le pasteur qu'il nous faut, le pasteur selon le cœur de Dieu, afin qu'il puisse continuer à garder le troupeau que le Christ lui a confié. Nous sommes toujours une église en marche pendant ce temps de pèlerinage. Pendant ce temps aussi de marche vers notre centenaire et nous devons manifester notre maturité dans tous les domaines, où nous avons essayé de montrer notre maturité. Alors que ce soit dans la prise en charge de nos églises, de nos prêtres, de nos services, que nous ne puissions pas ramollir, mais que nous puissions véritablement montrer au pape qui vient que nous sommes vraiment une église mature, une église mûre et capable de prendre son avenir en main.
C'était donc Mgr Edmond Ditangar, archevêque de N'Djamena au Tchad. Il était interrogé par Edouard Takadji. Un autre aspect par lequel le pape François a marqué l'église et le monde, c'est son ouverture aux pécheurs, aux situations difficiles dans l'église. On se souviendra de son thème « Chair de la miséricorde ». Ces appels incessants à l'Église à s'ouvrir davantage, à trouver de la place pour tous en son sein. C'est cela le souvenir de Mgr Gélase Kema, archevêque de Wando en République du Congo. Mgr Kema qui surnomme le défunt pape Papa.
Qui était le pape? Le pape, c'est notre papa, c'est notre responsable. Et comme évêque, j'ai été nommé par lui. Donc il y a un sentiment de proximité avec le pape François. Son ouverture envers un peu les pécheurs, envers toutes les situations difficiles, irrégulières dans l'Église, il nous invite tous à plus d'ouverture, à plus de générosité et à imiter la miséricorde de Dieu. Donc c'est un aspect de cette miséricorde. Donc c'est une miséricorde qui doit imiter en fait la miséricorde de Dieu qui, comme on dit, fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Donc nous sommes invités comme membres de l'Église, nous aussi, à pratiquer, à vivre de cette miséricorde. Donc, c'est une leçon qui nous laisse, que nous allons découvrir, approfondir et continuer à propager autour de nous.
Et oui, c'est un silence qui a envahi les cœurs des fidèles, un silence sacré, un silence qui s'impose quand le sacré se produit, comme va nous le dire Mgr Sosthène Léopold Bayemi, évêque d'Obala au Cameroun et président de la Commission épiscopale nationale camerounaise pour la communication.
C'est une émotion profonde qui m'a envahi à l'annonce du départ au ciel du pape François. Un grand silence a envahi mon cœur. Pas seulement un silence de tristesse, mais ce silence particulier que nous ressentons lorsque quelque chose de sacré vient de se produire. Le Saint-Père a rejoint le Père éternel. On n'écoute pas cette phrase-là constamment. Elle est inédite à la limite même du sacré. Il a quitté cette terre à l'aube d'un jour de Pâques, dans la lumière de la résurrection. Et cela change tout. Et ça m'a rappelé que le pape Jean-Paul II également s'en était allé au ciel durant l'octave pascale. Nous savions que le pape François était malade. Depuis plusieurs semaines, sa santé fragile était un sujet de prière dans nos communautés. Il avait été hospitalisé en février, affaibli par une double bronchite sévère devenue pneumonie. Il avait ensuite regagné sa chambre à la maison Sainte-Marthe dans un état de grande fatigue. Mais jusqu'au bout, il est resté fidèle, courageux, tourné vers Dieu et vers les autres. Le pape François ne s'est jamais plaint. Il a porté sa croix dans le silence, comme il a porté toute l'Église pendant plus de 10 ans, avec tendresse, avec fermeté, avec une incroyable profondeur spirituelle et une créativité inouïe. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est qu'il meurt, comme je l'ai dit tantôt, dans l'octave de Pâques, comme s'il voulait encore nous dire une dernière fois, « N'ayez pas peur, la mort n'a pas le dernier mot. Dieu n'a pas abandonné son Fils dans la mort, alors il n'abandonnera personne. » Le ressuscité est là et c'est vers lui que le Saint-Père s'en est allé. Pour moi, cela change tout. Le pape François n'a pas seulement gouverné l'Église, il a aimé cette Église comme un père. Il a servi comme un humble serviteur. Il a porté dans ses silences et ses combats. Il a fait comme un père porte sa famille sans relâche, voulant le meilleur de cette famille. Et pour cela, il a toute l'admiration du monde et l'estime des fidèles du monde entier. Mais je dis aussi aux fidèles, ne soyez pas abattus, comme le dit saint Paul dans la première lettre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis, afin que vous ne soyez pas abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Le Saint-Père François était un homme habité par cette espérance. Il l'a semée dans le monde entier. Et cette année de son départ est effectivement l'année jubilaire convoquée par lui, année de l'espérance. Le Saint-Père a eu une relation particulière avec l'Afrique. Il a foulé notre sol, autant pour moi, 5 fois, visitant 10 pays. Le Kenya, après du Kenya, il est parti en Centrafrique. Après, il est revenu en Ouganda. Il a visité l'Égypte, le Maroc, le Mozambique, Madagascar, l'île Maurice, la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud. Il est allé à la rencontre des peuples blessés, des jeunes, des familles, des réfugiés. Il nous a portés dans son cœur. Il a cru en l'Afrique. Il a pleuré pour nous, prié avec nous. Il nous a appelés à bâtir la paix avec courage. Aujourd'hui, c'est à nous de poursuivre ce qu'il a commencé par notre foi, par notre engagement, par notre amour du Christ et des pauvres.
C'était, comme je l'ai dit, Mgr Sosthène Léopold Bayemi, évêque d'Obala au Cameroun et président de la Commission épiscopale nationale camerounaise pour la communication. Et pour finir cette édition, un regard sur l'actualité sociopolitique sur les continents. Christian Lossambé.
Oui, Fabrice, la grande actualité est sans doute la mise à l'écart de la course à la présidentielle d'octobre 2025 de l'opposant ivoirien Tidjane Thiam, par une décision de justice sur sa nationalité. M. Thiam, qui a affirmé pour sa part mercredi que son parti ne le remplacerait pas et qu'il allait saisir la justice ouest-africaine pour contester cette décision. Mardi, le tribunal d'Abidjan a radié M. Thiam de la liste électorale, estimant qu'il avait perdu sa nationalité ivoirienne, une décision qui n'est susceptible d'aucun recours et qui ferme la porte à sa candidature à la présidentielle du 25 octobre. Rappelons également que Tidjane Thiam rejoint d'autres opposants, comme l'ex-président Laurent Gbagbo, radié de la liste en raison d'une condamnation judiciaire. Et au Ghana, le président a annoncé mardi la suspension de la présidente de la Cour suprême, la plus haute magistrate du pays, qui fait l'objet d'une enquête pour mauvaise conduite. La suspension de Gertrude Araba-Essaba-Torkorno est intervenue après que 3 pétitions distinctes ont demandé sa révocation sur la base d'allégations de falsification de dossiers judiciaires et d'utilisation abusive de fonds publics. Le porte-parole du nouveau dirigeant élu du pays, John Mahama, a déclaré dans un communiqué que le président, en consultation avec le Conseil d'État, avait décidé que Madame Torkorno serait suspendue pendant la durée de l'enquête.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici donc que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.